Bonsoir, donc vous êtes sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Ce soir, nous accueillons donc Mickaël et Philippe Parère pour un ouvrage qui vient de sortir, publié aux éditions de l'Épervier. Donc c'est un ouvrage qui s'intitule « Au cœur de la Révolution française ». ce sont des textes qui, de l'époque de la Révolution française, qui ont été choisis, donc, et présentés, avec une présentation assez intéressante. Donc, par Philippe et Mickaël. Alors, je me permets de dire que Philippe et Mickaël sont de vieux complices, puisque, il y a encore quelques années, c'est grâce à eux que j'ai pu commencer à participer à la présentation de l'émission de la Bibliothèque anarchiste, le mercredi matin de 8h à 9h30.
C'était
un horaire. C'était très tôt.
C'était trop tôt.
C'était trop tôt. Et voilà, donc j'ai grand plaisir à refaire une émission avec les deux bougres. Donc, alors, la Révolution française, bon, faut quand même signaler que il y a une petite activité éditoriale autour de ça, puisque il y a un livre d'Éric Azan qui vient de sortir, une histoire de la Révolution française, et donc aux éditions de La Fabrique. Il y a un autre ouvrage, Pourquoi faire la Révolution, aux éditions Agone. Alors, donc, au milieu de cette effervescence révolutionnaire, est-ce que vous pouvez me dire, alors Philippe ou Mickaël, vous choisissez, pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de la Révolution française, et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en parler comme ça?
Très bien, oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, la Révolution française, tu le disais, elle est revenue sur le devant de la scène, et notamment à l'occasion des dernières élections. Hein, ça a été remis au goût du jour, j'aimerais dire, même si notre travail à nous est bien antérieur, puisque c'est des années de travail, en fait, pour composer un livre comme ça. Et donc, tout d'un coup, le désir s'est manifesté, visiblement au plan politique, de parler de la Révolution. Mais nous, on trouvait que les discours sur la Révolution, en fait, que l'on entend généralement, quels qu'ils soient, y compris d'ailleurs des livres que tu as précédemment cités, sont pleins de gros défauts. Et le principal de ces défauts, c'est que souvent, le point de vue est un point de vue partisan, au sens où, finalement, l'historien qui raconte la Révolution, eh bien, il plaque un peu ses schémas, ses goûts, ses préférences. Et du coup, on n'arrive plus vraiment, et nous, c'était notre objectif, à comprendre la Révolution d'un point de vue critique, c'est-à-dire comprendre comment elle a pu se développer, mais aussi comprendre pourquoi elle a échoué. Et comment, finalement, elle a ouvert la voie à la contre-révolution. Donc ça, c'était vraiment un des aspects de notre réflexion, essayer de dépasser les points de vue partisans, entre guillemets, même si, comme on le dit dès l'introduction, on ne peut pas être neutre quand on raconte l'histoire de la Révolution française. Donc, il y avait un désir, comme ça, justement, de dire quelque chose d'original sur la Révolution, et pour ça, il nous a semblé que le meilleur moyen, c'était de revenir aux textes eux-mêmes. Et donc, plutôt que de répéter l'éternelle glose et de gloser sur les historiens qui ont raconté l'histoire de la Révolution, l'idée, c'était, pour chaque grand événement, prendre un ou plusieurs textes des acteurs de la Révolution. Et la particularité de nos choix de nos textes, c'est que nous avons choisi les textes des révolutionnaires. Donc, c'est la Révolution racontée de manière chronologique autour de ces grands événements par les révolutionnaires eux-mêmes, avec le point de vue critique des révolutionnaires dans la constitution et la construction de l'événement et des événements eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment intéressant, et je crois que ça permet de construire ce qu'on a appelé une histoire authentique de la Révolution, mais aussi, on le dit à un moment, une histoire polyphonique de la Révolution, donc à plusieurs voix, qui ne soit pas centrée autour d'une seule voix, qui n'est pas une seule, finalement, parole pour la Révolution.
Alors, Philippe ?
Oui, en effet, donc, ce qu'on a voulu éviter, comme Mickaël l'a dit, c'est de revenir comme le énième groupie de Robespierre, de Danton ou d'autres. C'est qu'en fait, les historiens sont des groupies. Ce sont des fans. Bon, un tel a pour fan Robespierre, un autre a pour fan Danton, un autre c'est Marat. Bon, ça, c'est pas un point de vue intéressant. Et donc, en effet, la glose a été liquidée. Faire dire la Révolution avec les textes des gens qui les ont faits, ces événements, avec des gens qui les ont préparés, avec les complots qu'ils ont mis au point pour que les événements aient lieu. C'est-à-dire avec aussi l'analyse, parfois critique, comme il a été dit, de ce qu'ils avaient fait. C'est un point de vue extrêmement important. Et je crois que de ce point de vue, le livre est facile à lire parce que il est chronologique.
C'est-à-dire
que nous avons bien sûr tenu compte du fait que les lecteurs pouvaient avoir un peu oublié le fil des événements. Donc nous avons placé les textes et les interventions des acteurs de la Révolution en fonction des événements pris les uns après les autres, en les présentant à chaque fois avec un chapeau analytique qui présente l'événement et le personnage dont il est question juste après, l'auteur en gros des textes, des documents, du décret-loi ou de la lettre ou de bout de mémoire qu'il a rédigé, et puis un chapeau arrière qui un peu plus anecdotique, qui raconte ou qui reprend quelques points de détail du texte que les gens auront pu lire. Donc le souci, c'est un souci de compréhension, d'éclaircissement, et surtout, comme on l'a dit, de donner la parole aux témoins et aux acteurs témoins. C'était l'idée, et en finir avec la glose sur la glose. Voilà.
En même temps, avec la Révolution, c'est extrêmement délicat comme exercice, parce que la Révolution, c'est quasiment immédiatement un événement qui est interprété, surinterprété quasiment dès le départ, que ce soit par Burke en Angleterre, par Kant en Allemagne,
ou Fichte,
ou Hegel un peu plus tard, mais très très vite.
Mais justement, ce qui est intéressant,
c'est un événement qui, au bout du compte,
majeur pour les gens de l'époque,
est lu, relu, réinterprété dans tous les sens.
Oui, bien sûr.
Donc, j'imagine que ça, sélectionner les textes, ça a dû être une sacrée gageure, parce que
il y en a eu des centaines de sélectionnés, puis on arrive à 60, et à partir de là, on fait un peu le travail qu'on avait pu faire sur une autre révolution, ou en tout cas une autre philosophie de la révolution, la révolution libertaire. Nous avions publié un ouvrage aussi sur la révolution libertaire, mais là, il s'agit de la révolution française, et donc analyser un peu cette révolution, voir les reproches qui ont été faits par la suite, aussi bien par les auteurs de la bourgeoisie conservatrice que par les auteurs de la révolution elle-même, les auteurs du camp progressiste, qui n'ont pas d'ailleurs évité le plus souvent de dire de sévères critiques à l'égard des révolutionnaires. Mais notre objectif n'était pas de sauver les uns contre les autres, de dire que l'un valait mieux que les autres. On a montré les textes et on a montré les événements à travers ces textes et ces auteurs-là. Je crois que de ce point de vue, la chronologie est utile. On a voulu aussi combattre l'idée de l'histoire systémique, l'histoire où il ne se passe rien, où il y a que des surgissements, il y a des jaillissements,
des ruptures,
il y a des conflits de réseau, il y a des structures qui se parlent,
ici Philippe Tabla sur les structuralistes.
Oui, on en a assez. Voilà pourquoi les gens ne savent même plus ce qui s'est passé. Et cette entreprise d'écervellement, elle est politique, elle est idéologique. Empêcher les gens de comprendre la Révolution française, c'est aussi les empêcher de faire la prochaine.
Complètement. Alors, tu mentionnais un autre de vos ouvrages que, pour ma part, j'avais beaucoup aimé, La Révolution libertaire. Alors, comme on est sur Radio Libertaire, la Révolution française, c'est les Jacobins. Qu'est-ce qu'on en fait ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un libertaire peut retenir de la Révolution française?
Ben d'abord, il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. La première, c'est que les grands penseurs du mouvement libertaire ont réfléchi sur la Révolution française.
Kropotkin,
qui a écrit La Grande Révolution. Plus près de nous, c'est le cas aussi de Daniel Guérin, qui publie Bourgeois et Bras nus, dans lequel il fait une analyse critique de la Révolution française. Et toutes ces histoires, en général, sont des histoires très documentées, aussi bien dans le cas de Kropotkin que dans celui de Daniel Guérin, et ce sont des histoires qui ont un caractère social marqué, il y a beaucoup de documents qui sont brassés, mais c'est une particularité, il faut le savoir quand même, quand ils s'intéressent aux différents personnages qui ont composé la Révolution, aux différentes forces qui ont composé la Révolution, ils s'intéressent surtout aux forces. Les individus, finalement, ils les laissent un peu de côté. Et il me semble d'ailleurs que dans certains cas, ça participe d'une erreur. Par exemple, Kropotkin dit, quand il parle de la Révolution française, que les révolutionnaires français n'ont pas osé. Mais ce n'est pas vrai. Quand on lit les textes que nous avons choisis, on voit qu'ils ont osé. Alors qu'ils aient fait des erreurs, c'est une chose, on peut ensuite en discuter, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas osé. Et donc nous, on a voulu justement réinterroger la Révolution française, sans faire ce qui avait déjà été fait par la grande tradition libertaire, mais en construisant ce qu'on a appelé une histoire polyphonique de la Révolution. Parce que finalement, il y a deux grandes manières de raconter la Révolution. Il y a la manière symphonique, j'ai envie de dire, et donc la manière totale ou totalisante, c'est la grande historiographie marxiste traditionnelle, mais c'est aussi l'histoire de Kropotkin, la grande histoire de Kropotkin. Tout est centré autour d'un grand jeu de force ou d'une grande idée. Dans le cas de Kropotkin, c'est l'idée d'insurrection, par exemple. Et à chaque fois, c'est une vision qui veut être globalisante. Et nous, au sens de total, voilà, on a envie de donner un tableau. Et nous, notre idée, c'était de recomposer ce tableau, mais à partir justement du jeu des forces et des individus qui ont été des très très nombreux, pour comprendre la Révolution de l'intérieur. Et du coup aussi, voir comment la liberté des acteurs à l'intérieur du champ de la Révolution a donné le sens, son sens à la Révolution, un sens révolutionnaire très particulier, et qui explique aussi pourquoi c'est une Révolution qui n'est pas comme les autres. Parce que, comme on l'a dit, et contrairement à ce qu'on avait pu dire précédemment, il y a dans ce mouvement et dans ce mouvement révolutionnaire français quelque chose qui n'est absolument pas commun, ni avec la Révolution anglaise, ni avec la Révolution américaine. Contrairement d'ailleurs à ce que on a pu dire par la suite, est une révolution totalement nouvelle. Et je pense que d'un point de vue libertaire, il faut être capable de la comprendre, y compris d'ailleurs de comprendre ses dérives étatistes, mais être capable de les expliquer de manière intéressante. Aujourd'hui, par exemple, on a des auteurs comme Michel Onfray, qui nous parlent de la révolution et des révolutionnaires comme de simples buveurs de sang. C'est la théorie des buveurs de sang.
Explique-la.
Oui, en gros, ça consiste à dire que tous les révolutionnaires républicains, les grands révolutionnaires, sont des massacreurs, essentiellement parce qu'ils étaient des étatistes, et donc leur conception les aurait assez mécaniquement et nécessairement conduite au massacre. En fait, quand on voit bien comment les choses se sont passées, il y a énormément d'histoires personnelles qui se glissent à l'intérieur de ces fameux des exécutions ou pas. Et si on veut comprendre ce qui s'est passé, il ne faut pas arriver avec un point de vue moral extérieur et proposer des qualificatifs diffamants, en gros, parce que c'est ce qui se passe, mais chercher plutôt à comprendre ce qu'ont fait les hommes, ce qu'ils ont voulu, les limites de leurs actions. Et là, je pense qu'on entre dans une bonne compréhension du sens et du phénomène révolutionnaire, et c'est ce que j'appelle, moi, une compréhension libertaire. Elle redonne son autonomie aux acteurs de la révolution. On arrête de les enfermer dans des cases.
Alors, nous parlons aujourd'hui de Au cœur de la Révolution libertaire, un livre publié aux éditions de l'Épervier. Au cœur de la Révolution. Oula.
Lapsus révélateur,
donc Au cœur de la Révolution française et non libertaire, donc aux éditions de l'Épervier, même si vous pouvez trouver la Révolution libertaire aussi aux éditions de l'Épervier, donc édité et publié par Michael et Philippe Parer. Alors, maintenant on va peut-être pouvoir rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, quand il s'agit de couper des têtes.
Pas tout de suite.
Non,
on va attendre un peu.
Quelques-unes seulement.
On sait bien que c'est ce qu'on fait les révolutionnaires, hein, tous ces buveurs de sang. Donc, ce qui est frappant quand on ne s'est pas plongé sur la Révolution française depuis un certain temps, j'avais lu Kropotkin il y a peut-être un an ou deux, sur La Grande Révolution.
Ouais.
C'est passionnant, demeurant. C'est l'espèce de temporalité et l'accélération tout d'un coup du mouvement de l'histoire. Et donc, j'ai sélectionné quelques textes à votre attention, chers auditeurs, et on va essayer de revoir un petit peu les grands points, les grands événements de la Révolution, pour essayer de mettre un peu un cadre historique là-dedans, et en même temps vous laisser la surprise de lire les textes eux-mêmes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très intéressants à lire. Donc, ce que je vous rappelle, alors vous me corrigez si je fais des erreurs, parce que tout ça c'est un foisonnement de dates absolument épouvantable dans lesquelles je me retrouve pas toujours très très bien. Donc le 5 mai 1789 sont ouverts les états généraux, et c'était une première depuis quoi, 2 siècles?
Oui.
Environ. À peu de choses près. Donc l'ouverture des états généraux, c'est la réunion de tous les ordres de la France. 1614. Oui, voilà. Ouais. Oui, donc ça faisait presque 2 siècles, pas longtemps. Tout à fait, longtemps. Donc se réunissent les trois ordres de l'État, enfin du royaume de France. Et alors, ce qui va très très vite, c'est qu'on s'aperçoit donc que le 5 mai, c'est ouvert. Bon, malgré les réticences du roi. Et dès le 17 juin, le tiers-État fait sécession. En réaction au fait que les nonnes ne voulaient pas siéger avec eux, ni d'ailleurs une partie des prêtres, et ils vont se constituer
en Assemblée nationale.
C'est un coup de force juridique absolument phénoménal et admirable à l'état d'égard. C'est-à-dire qu'ils décrètent que c'est eux la nation, et que c'est eux qui vont, à partir de là, faire les lois, c'est ça ?
Exactement. Il faut dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus représentatifs que les autres ordres.
Complètement. Et alors, donc ça c'est le 17 juin, et le 20 juin il y a le serment du jeu de paume qui est très célèbre, que moi je confondais avec la constitution, comment dire, avec la constitution d'Assemblée nationale du 17, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et alors, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est que 5 mai, ouverture des états généraux. 17 juin, l'Assemblée nationale constituante se déclare elle-même, en quelque sorte, autorisée.
Donc 5 semaines après.
5 semaines après, c'est très rapide.
Très vite.
Surtout quand on pense à la fermeture de l'état politique de l'époque, où tout était bien verrouillé comme il faut.
Mais il y a une contestation très profonde aussi.
Oui, très ancienne. Énormément de révoltes.
Oui, c'est ça, des révoltes, des famines, une contestation intellectuelle qui commence presque au début du siècle, et qui va s'amplifiant sans arrêt, avec la clique, Voltaire, etc., que vous connaissez.
Ça ne vient pas nulle part.
Diderot. Oui, ça ne vient pas nulle part, et c'est un cas français, typique aussi, que cette préparation idéologique dans les cafés, où les gens se réunissent et disent et disputent et discutent.
C'est aussi une belle illustration du schéma évolution-révolution dont on avait parlé en son temps. Une très très lente évolution, et puis une révolution qui brise toutes les digues et qui rend le paysage méconnaissable. Voilà. Et là, c'est exactement ce qui se passe, puisque le 14 juillet, il y a cette fameuse prise de la Bastille. Et donc, vous avez donné un texte, alors c'est page 36 de votre ouvrage, de Camille Desmoulins, qui, lui, n'a pas participé directement à la prise de la Bastille, mais qui, en tout cas, a été
un élément précurseur,
un personnage essentiel de la Révolution et de cet événement aussi.
Oui.
Alors, donc, j'aimerais bien qu'on parle peut-être un petit peu de ce texte et puis un peu aussi de Camille Desmoulins. Michael ?
Oui, Camille Desmoulins, il faut le dire, c'est l'un des personnages que l'on a choisi comme, ou dont on a choisi et sélectionné les textes aussi parce que, à l'intérieur de la Révolution, on va le voir, hein, en abordant d'abord la question du 14 juillet et tout ça, c'est l'un de ceux qui a le point de vue critique sur la Révolution, mais aussi le point de vue le plus actif sur la Révolution. C'est une critique de la Révolution de l'intérieur. C'est un acteur de la Révolution qui, on va le voir d'abord, va, par enthousiasme, on le voit tout de suite, se lance dans le processus révolutionnaire, et puis après, le critique.
Alors, il faut dire qu'il est, il est avocat, il est ami de Robespierre.
Oui, c'est un ami de Robespierre.
C'est un ami de collège.
C'est un ami de collège.
Alors, collège signifiant pas forcément ce que nous on entend par collège.
Non,
mais
c'est donc, le lycée Louis le Grand.
C'est d'accord. Et Robespierre a été son témoin de mariage.
Robespierre va être son témoin de mariage.
Et parrain d'une de ses filles, je crois.
Oui, Robespierre sera son témoin de mariage, ainsi que Brissot.
D'accord.
Ouais. Et en effet, Desmoulins, c'est un personnage très, très attachant et très intéressant, parce qu'il y a chez lui un mélange d'enthousiasme et d'idéalisme à l'intérieur du processus révolutionnaire, c'est un type très enthousiaste, mais c'est aussi quelqu'un de critique. Et dans le texte que tu cites et dont tu parles au sujet du 14 juillet, puisque dans des lettres qu'il écrit à son père, et dans une lettre qu'on a sélectionnée, il raconte les journées qui ont précédé la prise de la Bastille, il explique exactement ce qui s'est passé. Et là, on se rend compte, d'abord que lui, en tant qu'acteur, c'est l'un des principaux... c'est lui qui va appeler, en fait, dans les journaux qui précèdent la Révolution, il va appeler aux armes. Parce que ce qui se passe, c'est que après donc la période sur laquelle on est passé rapidement, donc de l'ouverture des états généraux, des crispations des différents ordres, et puis aussi des réactions du roi et de la monarchie, c'est que le roi prend peur et il fait entourer la ville de Paris de soldats pour essayer de reprendre le pouvoir quand il voit que l'Assemblée nationale s'est autonomisée. Et qui va sauver l'Assemblée nationale, d'une certaine manière, c'est le peuple. Et c'est le peuple en prenant la Bastille. Et ce que fait Desmoulins, lui, c'est qu'il est l'un des principaux, le principe, enfin, c'est lui qui appelle à prendre les armes tout de suite. Ils vont aller prendre les armes au Palais des Tuileries, et par une série d'enchaînements particuliers à la Révolution, qui mêlent aussi d'autres acteurs, parce qu'il n'y a pas que lui qui est intéressé dans cette histoire, il y a aussi des gens comme Maillard, par exemple, qui est un des hommes les plus importants du début de la Révolution, et derrière lui, Philippe d'Orléans. Bon, en tout cas, ils mettent en mouvement un phénomène de masse qui va d'ailleurs les dépasser et au cours duquel la fameuse forteresse est prise.
En 2h30.
Oui, Philippe. Alors, quand on voit les événements, et c'est important, et les textes le disent, que se passe-t-il ? Desmoulins est là, il est au Palais Royal, il crie aux gens, mais enfin, bougez là, on ne peut pas laisser faire ça comme ça, on va se faire tirer dessus, les canons sont là, à Montmartre, on peut nous tirer dessus, on pense à l'époque à un complot, une Saint-Barthélemy des patriotes, hein, c'est le terme. Donc les gens ont un petit peu peur, et ils voient, bon, les gens ne bougent pas trop, ils sont là comme ça, mais ils ne bougent pas. Et que se passe-t-il ? Eh bien, ils voient deux soldats qui passent, deux types qui passent avec des armes, qui sont des ouvriers, qui ont des fusils, et qui disent « aux Invalides ». Mais pourquoi aux Invalides ? Parce qu'aux Invalides, il y a les fusils. Alors, la foule, d'un seul coup, se propulse vers les Invalides. Et les gens font cortège et se ruent sur les Invalides. Ils rendent les Invalides de force, manu militari, et là, figurez-vous, ils prennent 30 000 fusils et 20 canons. Mais il n'y a pas les munitions. Où sont les munitions ? À la Bastille. On va chercher les munitions à la Bastille. Donc les gens foncent et là, c'est 50 000 personnes avec 30 000 fusils qui se dirigent, des fusils pas tous chargés d'ailleurs, forcément, puisque les balles sont pour une part à la Bastille. Et là, on attaque la Bastille pour les munitions. Donc il y a un processus révolutionnaire conscient de prise des armes, de on se saisit des armes, on fonce, on prend les armes où elles sont, et là, le rôle de Desmoulins est absolument, comme déclencheur, est absolument extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est à l'origine, comme l'a dit Michael, de l'appel aux armes, et qui ensuite va déclencher, n'est-ce pas, ces mouvements, et on est tout à fait loin d'une explication dont les grandes explications par les forces obscures et souterraines peuvent rendre compte. On se rend bien compte qu'il y a une dimension chaotique là dans l'événement, qu'il y a une liberté de chacun d'agir ou pas, que ce ne sont pas les forces obscures économiques qui vont pousser les gens à foncer aux Invalides. Non, ils vont aux Invalides parce que les fusils sont là, et ensuite ils vont à la Bastille. Pourquoi ? Parce qu'à la Bastille, il y a la poudre. Et après avoir perdu 100 personnes, puisque Candelonnet fait fait tirer au canon à mitraille de l'Est, le gouverneur de la Bastille. Il fait tirer au canon contre la foule qui tente de rentrer dans la Bastille. Il met par terre 100 personnes. Hein. Et donc, après, le prix, le coût des 30 000 fusils armés, ce qui va déterminer l'histoire, l'histoire de la Révolution dans les années qui vont suivre, imaginez ce que c'est que 30 000 personnes avec des fusils, tout de même, dans une ville qui est la capitale. Hein. Les gens, il y a 30 000 fusils, 20 canons. Où sont-ils passés ? Ben, ils vont aller ensuite dans les sections de la commune, ils vont se répartir dans les quartiers.
Dans la garde nationale.
Donc, évidemment, dans la garde nationale, il va y avoir vraiment une armée hein, qui va, populaire qui va se constituer là. Donc, c'est vraiment fondateur, et Desmoulins est un type, de ce point de vue, très important. On a cité plusieurs textes de Desmoulins, parce qu'il apparaît plusieurs fois, il a souvent été présenté, justement, comme un type hésitant et faible, et même presque modéré, sous prétexte qu'à un moment, il a appelé à l'indulgence, mais en réalité c'est un révolutionnaire conséquent. C'est un homme dont beaucoup d'historiens marxistes disent que c'est un type qui était, un piètre journaliste. Enfin,
bon, non, un grand journaliste,
un piètre homme politique. Ouais, pardon.
C'est Sobou.
Vous voyez le genre d'analyse de Sobou, là. C'est ahurissant de dire ça. De type qui a finalement déclenché le processus de prise d'armes qui, dans toute révolution, dans tous les cas, est toujours fondateur.
Comme disait Blanqui,
il en faut.
Et maintenant, il faut des armes.
C'est ça. Mais oui.
Donc, on va peut-être bientôt passer un petit morceau de musique. Oui, José ?
C'est bon.
Donc, c'est La Tête de Veau. On vous expliquera juste après pourquoi La Tête de Veau. Écoutez Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir, donc avec Michel qui vous parle, José aux platines, et nos invités, donc Michael et Philippe Parère. Et nous vous parlons ce soir du livre qu'ils viennent de publier, qui s'intitule « Au cœur de la Révolution française ». Donc, et non pas libertaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, nous venons de voir donc la prise de la Bastille avec Camille Desmoulins, comme étant celui qui a mis le feu aux poudres, si on peut dire. Et donc, alors ensuite, bon, je continue très rapidement la chronologie. Hein, donc, dans la suite, le 4 août, il y a l'abolition, la fameuse abolition des privilèges. Donc bon, on pourrait en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez éventuellement, il y a beaucoup de documents là-dessus dans le bouquin de Kropotkin, beaucoup de choses intéressantes, je trouve, la Grande Révolution. Et après, on arrive à un deuxième texte qui m'intéresse, c'est la première Déclaration des Droits de l'Homme, qui est faite par Mirabeau, donc grand personnage du début de la Révolution, grand personnage, personnage ambigu à d'état d'égard, puisqu'il est à la fois moteur et frein, parce qu'il est soudoyé par le roi, quand même.
Bien sûr.
qui lui paye sa vie dissolue. Donc, vous avez donc cette première déclaration des droits de l'homme, qui est faite le 17 août 1789, et qui est assez différente de celle qui a suivi. Alors, dans votre ouvrage, je vous signalais la différence, finalement, avec de noms propres. C'est que la première serait d'inspiration très rousseauiste. Et on sent d'ailleurs que Mirimbaud, que Mirimbaud, il n'est pas très très content du texte qu'il présente.
Non.
À des tas d'égards, il est très très réticent.
Oui,
il n'arrête pas de le dire. Et vous dites que la deuxième, par contre, est plus sous le signe de Montesquieu.
C'est vrai.
Alors, ça pourrait être intéressant, parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait eu... J'ignorais complètement le processus de rédaction de cette fameuse Déclaration des droits de l'homme, et les hésitations qu'il y avait pu en avoir.
Oui.
Alors, Michael ?
Nous, on a choisi ce texte parce que c'est un texte central, puisqu'on nous dit toujours qu'on est la patrie des droits de l'homme. Hein ?
Oui.
C'était intéressant de voir la première déclaration, parce que c'est la première déclaration collective. Il y a eu d'autres déclarations avant, mais c'était des déclarations individuelles. Là, on est dans la première mouture collective, qui est pensée par un comité de 5 personnes, et Mirimbaud est le rapporteur. C'est lui qui va présenter, dans un discours qu'on a reproduit, la fameuse déclaration. Et ce qui est original, en effet, c'est que lui-même était un petit peu hésitant par rapport à cette déclaration, mais... pour des raisons d'ailleurs qui sont celles que tu as signalées, c'est que c'était à la fois un moteur de la révolution et puis un fringue. Et en même temps, il a une particularité, ce texte, c'est qu'il est d'une certaine manière plus radical que le texte définitif du 26 août. C'est-à-dire que le texte que nous, que l'on connaît comme étant la Déclaration universelle des droits de l'homme, quoi, qui est dans tous nos manuels, c'est un texte qui insiste beaucoup plus sur la question de la division des pouvoirs que sur la question de l'unité, de la volonté générale, de l'action du peuple et de ses droits. La première mouture est beaucoup plus radicale et d'inspiration rousseauiste, donc beaucoup plus nourrie du contrat social. Et la version définitive, qui va être surtout nourrie des textes de Sieyès, a beaucoup plus dans sa visée la question de la différenciation des pouvoirs, de leur équilibre, et donc la réflexion de Montesquieu, et héritée de l'esprit des lois, bien sûr, et tirée de l'esprit des lois, et puis aussi de manière plus lointaine, du deuxième traité du gouvernement civil de Locke, dont Montesquieu était un grand lecteur. Bon. Mais ce qui est intéressant de dire aussi autour de cette déclaration, c'est pour ça qu'on a parlé de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que, à leur époque, elles ne comprenaient pas les femmes. Voilà encore une histoire qu'on raconte peu ou insuffisamment à l'intérieur quand on raconte l'histoire de la Révolution, c'est que cette déclaration collective des droits de l'homme, c'est une déclaration des droits des mecs. Et alors justement, dans le chapeau arrière...
Ce n'est pas assez dit, ça.
Des droits de l'homme avec un petit H.
Oui, c'est des droits de l'homme au sens de genré. De l'homme comme être masculin. Oui. Non, c'était donc intéressant, voilà, parce qu'à chaque fois, notre point de vue, quand on a choisi des textes, c'est de montrer à la fois la force des textes et des hommes qui les ont pensés, des types d'actions que ça a pu déclencher, mais aussi, parfois, les faiblesses, les manques.
Hein, alors, à la suite de ça, vous citez Olympe de Gouges.
Exactement. Et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 2 ans après, qui lui vaudra d'être exécutée.
Ouais, mais comme elle l'avait dit dans cette fameuse déclaration, puisque nous avons le droit de monter à l'échafaud, nous devons aussi avoir le droit de vote.
Oui, mais elle n'a pas eu le droit de vote. Elle n'a eu que le droit de monter à l'échafaud. C'est ça qui est terrible. Et une chose qui est intéressante aussi quand on lit cette déclaration, quand on connaît le personnage de Mirimbaud, c'est qu'on se rend compte qu'il avait compris tout de suite le danger de la déclaration. C'est-à-dire que la Constitution n'avait pas encore été créée. Il a compris que le fait d'introduire cette déclaration en préambule donnait une perspective et un champ d'action très très large, promettait beaucoup au peuple, alors que la Constitution, elle, serait discriminatoire, puisque, on le sait, il y avait des citoyens actifs, des citoyens passifs, les femmes ont été exclues, en fait, de facto, très rapidement, tout de suite, du vote, du droit de vote. Donc, ça pouvait aussi que créer des mécontentements. C'est donc passionnant de lire ce texte et de voir comment on peut le penser de manière critique.
C'est amusant parce que c'est un problème qui s'est poursuivi très très tard, jusqu'au XXe siècle. Quelle est la place de la Déclaration universelle des droits de l'homme en préambule de la Constitution? Est-ce qu'il doit être inclus dans la Constitution ou pas? Le Conseil constitutionnel a dû statuer là-dessus il y a quelques années, parce qu'en fait, ils s'en démerdaient pas.
Mais oui.
Et donc, ils l'ont intégré de force à la Constitution, mais que très récemment. Oui, Philippe ?
Oui, je voulais ajouter qu'en réalité, l'étude de ces textes, qui sont préliminaires, puisqu'il s'agit en fait d'une assemblée, qui nomme des commissions pour essayer d'établir un texte collectif que tout le monde votera ensuite. C'est un principe que tout le monde connaît. Quiconque, par exemple, a participé à la rédaction d'une motion dans une assemblée générale de grève, quelle que soit la profession, sait que c'est extrêmement difficile.
Chacun... C'est encore le cas de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Absolument. Elle a toujours des commissions. Elle fonctionne toujours
sur ce principe. Tout à fait, elle fonctionne sur ce principe. Et en réalité, ce qui est important, c'est que le choix qui a été fait... ultérieurement, est en effet un choix qui est loin d'être celui du rousseauisme initial. C'est-à-dire que par la suite, la conception de la démocratie qui va apparaître et qui va être appliquée est une conception qui va systématiquement favoriser la représentation nationale, la représentation démocratique, et non pas la démocratie directe. C'est-à-dire que c'est aussi une caractéristique de la Révolution française aussi que d'avoir de véritables objectifs extrêmement radicaux, et de voir aussi que dans certains cas, les compromis entre partis, ou bien sous la pression, ou bien du fait de la difficulté d'organisation, amènent à faire des pas en arrière gigantesques. Ainsi, par exemple, la démocratie organisée par la Révolution française, c'est une démocratie exclusivement représentative, où les assemblées directes locales n'ont aucune valeur. À l'heure actuelle encore, c'est d'ailleurs vrai, nous n'avons pas, par exemple, la capacité de nous rassembler dans un coin et de dire on n'est pas d'accord avec la loi qui vient d'être votée. Or, dans la Révolution française, je pense que c'est le problème de fond. Non seulement la démocratie a été réduite à la démocratie représentative, à l'exclusion de la démocratie directe, mais en plus, dans le cadre de la représentation, la quantité des gens qui ont été exclus du vote rend évidemment caduque toute idée de représentation raisonnable de la totalité de la population. Comme ça a été dit, premièrement, on retire 50% de femmes, et ensuite, dans les 50% qui restent, on retire 2/3 des citoyens qualifiés de passifs parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants. Ce qui fait que l'Assemblée nationale va être élue par, en gros, entre 15 et 20%, quand on compte bien, de la population générale. C'est donc très très peu, une personne sur 7 qui vote, sachant qu'ensuite, les comités qui vont être nommés ne sont pas élus, sont des émanations, un petit peu comme un comité de grève émane d'une assemblée générale de grève. Vous voyez, c'est un peu le principe. Mais ce comité qui va émaner, il est là et il va devenir l'exécutif de l'assemblée. Et on verra par la suite comment cette vision premièrement réductrice de la démocratie comme étant représentative exclusivement, deuxièmement réductrice comme étant une république qui exclut un certain nombre de citoyens du vote, mais pas de la mort au combat, par exemple, pas de la mort aux armées, pas de l'impôt. Hein. C'est vraiment une chose qui, faut le dire, justifiée aussi, entre autres, particulièrement l'idée de Proudhon, qui disait « la Révolution française est arrêtée au milieu du gué ». Parce que, autant il est clair que l'événement révolutionnaire français est un événement universel, de portée universelle, et reconnu comme tel, dès l'époque, comme vous avez dit tout à l'heure, autant il est clair aussi que cette révolution a été rapide, brève. Nous avons un livre qui commence au printemps 1789 et qui s'arrête à l'été de 94. Car la révolution radicale, c'est cette période-là. C'est très très peu de temps. Et bien entendu, ça n'a rien à voir avec une expérience comme celle de l'Union soviétique, ou celle de la Chine, ou celle du Vietnam, ou celle de Cuba, ou tout ce que vous voudrez. C'est trop bref. Trop bref pour pouvoir aller plus loin. Mais aussi, c'est pas seulement trop bref, ça part aussi dans des directions qui ne sont pas toujours les bonnes, même si les gens ont parfois des idéaux extrêmement élevés.
Robespierre était contre le vote censitaire, par exemple.
Par exemple.
Il s'y opposait. Il s'opposait
par exemple
là-dessus.
Oui.
Et je pensais aussi à l'influence des sections parisiennes.
L'influence occulte, illégale.
Oui, illégale.
Et qui s'est exprimée le plus souvent par des coups de fusil.
Oui. Ou des émeutes.
Ou l'invasion de l'Assemblée nationale.
Voilà. Ainsi de suite. N'ayant pas de valeur, n'étant jamais concerné, les sections ne pouvaient influer sur les décisions de l'Assemblée que d'une manière qui était illégale du point de vue de
l'Assemblée. Elle présentait souvent des pétitions, je crois, des motions.
Par l'intermédiaire aussi de la Commune de Paris.
Oui. Voilà.
Parce que, en fait, c'est par l'intermédiaire des districts et des sections.
Il y a des instances intermédiaires.
De la Commune de Paris. Que le peuple va de manière indirecte là aussi, parce qu'il n'est pas toujours représenté ni concerné, mais il va chercher à influer sur ce que font les différentes assemblées. Et ça explique aussi les luttes et les enjeux de pouvoir et les luttes parfois fratricides entre la Commune de Paris, l'Assemblée, ceux qui sont des soutiens à l'intérieur des assemblées de la Commune de Paris, ceux qui ne le sont pas.
Et entre les comités eux-mêmes, entre le comité de sûreté générale et le comité de salut public aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un maquis qui, de l'extérieur, semblait tellement chaotique que, il faut le dire et le noter, les nations environnantes, qui étaient systématiquement des monarchies, laissaient faire, croyant que ça allait se casser la figure. Elles ne voyaient pas que, malgré ses faiblesses, le système était poussé par un immense enthousiasme populaire. Cet immense enthousiasme populaire qui va apparaître, par exemple, dans la tentative désordonnée au début, mais assez efficace, de défense du sol national, lorsque les puissances étrangères vont unilatéralement, disons-le quand même, envahir le territoire français pour rétablir le roi dans ses prérogatives. Mmh. Chose à laquelle, vous le savez, les révolutionnaires répondront par l'élimination physique du roi, puis de la reine. Du coup, il n'y a en effet plus tellement de raisons d'attaquer la France et de l'occuper. Mais c'est important, on explique mal l'enthousiasme révolutionnaire du peuple français pour un État pourtant imparfait. Du point de vue de la représentation, si on ne comprend pas qu'il y a en même temps un énorme enthousiasme populaire. Il est très très grand.
Donc, alors, je reprends le fil un peu des événements, qui est très très rapide. Donc après cette déclaration, cette première déclaration collective des droits de l'homme, le 17 août 1789, en octobre 1789, je crois encore, le roi est rapatrié manu militari à Paris, aux Tuileries.
Il était en train de se barrer.
Alors pas encore là. C'est pas la fuite à Varennes. Il est à Versailles tranquille.
Il est soupçonné de toute manière de vouloir partir.
Donc. Oui. À juste titre. On est encore en 89.
On est encore en 89. Donc c'est simplement pour les auditeurs histoire de rappeler un peu le fil. Donc c'est aussi à ce moment-là. J'ai trouvé ça assez curieux. Je pensais pas que ça s'était fait aussitôt que la vente des biens du clergé est faite.
À cause des difficultés financières,
mais j'aurais pas. Avant la lecture de votre ouvrage, comme beaucoup de gens, j'avais une connaissance très imparfaite de la Révolution. J'imaginais pas que finalement, c'était avec encore un roi que les biens du clergé avaient été vendus.
Moi, je ne peux que conseiller aux Grecs, d'ailleurs, de faire de même, car la puissance du clergé grec me paraît très largement exagérée, surtout si l'on considère l'état dans lequel se trouve le peuple grec.
En plus, ils ne payent pas d'impôts là-bas.
Et ils sont exemptés d'impôts.
C'est absolument normal.
Ahurissant.
Alors, donc après, voilà. J'ai l'impression que les choses se calment un petit peu, après que le roi soit mis aux Tuileries, au chaud, tout ça, que les biens du clergé soient vendus, puisque bon, en 14 juillet 1790, un an après l'émeute de la Bastille, il y a la fête de la Fédération, qui en réalité est là pour recouvrir ensemble plus ou moins la prise de la Bastille par une espèce de grande manifestation d'unité nationale. D'ailleurs, le 14 juillet, aujourd'hui, nous ne fêtons pas la prise de la Bastille. En réalité, nous fêtons la fête de la Fédération. Même si tout le monde, finalement, pense à la Bastille. Ça, c'est une manœuvre, qui a totalement échoué, ça. un tournant, et là, on va reparler d'un texte que je trouve intéressant. C'est un grand tournant de la Révolution. C'est en juin 1791, la fuite du roi. Et son arrestation à Varennes. Alors ça semble être un moment clé de la Révolution. Alors bon, Mirabeau est mort, le roi a perdu un de ses plus fidèles affidés secrets au sein de l'Assemblée. Il y a la reine, donc Madame Veto, qui pousse Louis XVI au crime et lui dit allons voir mes cousins histoire qu'il nous ramène une belle armée et qu'on puisse écraser cette vermine et égorger tout Paris. Madame Veto l'avait promis. Égorger tout Paris. Mais et on peut se demander si sans cette fuite, est-ce que finalement Louis XVI n'aurait pas pu continuer à couler des jours heureux en tant que roi constitutionnel, même si ça lui faisait mal aux fesses, étant donné qu'il était le petit-fils de Louis XIV.
Je vois
votre dénégation, alors expliquez pourquoi.
Il y a peu de chance, parce que ce qui s'est passé quand même, c'est que le développement de la Révolution et les revendications de plus en plus importantes à chaque fois de l'Assemblée n'ont pas cessé de grignoter les pouvoirs du roi. Donc lui, dans sa perspective de monarque absolu, il ne pouvait pas l'accepter. C'était impossible. Il n'aurait jamais pu fonctionner avec une monarchie constitutionnelle, puisque, comme tu l'as dit, il était un héritier direct de Louis XIV et de sa théorie et de sa conception de la monarchie absolue. Donc, c'était impossible pour lui d'accepter une vraie monarchie constitutionnelle à l'anglaise, telle qu'elle pouvait avoir été rêvée d'ailleurs par Montesquieu et d'autres. Mais ça n'était pas du tout possible pour cet homme qui, on le dit peu, mais on en parle tout de même, on le dit peu je trouve, ou pas assez, dans l'ouvrage on en parle, était un homme qui derrière un caractère réellement indécis, c'était un personnage indécis, avait néanmoins pris comme décision de conserver son pouvoir. Son espoir à lui à chaque fois, ça a été de laisser faire, et il a pensé que le laisser faire allait conduire à l'effondrement de la Révolution. Quand il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, que tout était perdu pour lui, que ses pouvoirs étaient totalement reniés, et comme tu l'as dit, que Mirabeau mourait alors qu'il l'avait acheté en sous-main, pour une somme énorme d'ailleurs à l'époque, un million de livres, c'est quand même énorme, il a fait 4 chèques de 250 000 livres. Eh bien, quand il s'est rendu compte donc que Mirabeau mourait, qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui véritablement de contrebalancer l'apparition de forces nouvelles de plus en plus radicales, Il a pris la décision de la fuite, et on raconte dans un texte qui est celui du rapport du député
Pétion,
qui est un député pro-républicain, même s'il ne peut pas le dire à l'époque, on se rend compte que, en effet, c'est le moment de la déchéance du roi, véritable. C'est là où toute l'espèce d'honneur, enfin, l'espèce d'admiration, de culte qui était vouée à la personne du roi, qui était censée être de droit divin, comme le rappelait, va s'effondrer. Et d'ailleurs, c'est marqué au fait que c'est raconté dans le texte de Pétion. Eh bien, quand il revient sur Paris, qu'il est raccompagné après sa fuite, son échec et le retour de Varennes, donc son échec à Varennes, quand ramené de Varennes vers Paris, il est ramené dans des conditions d'un silence total, qui indique une réprobation collective populaire immense. Il est désormais déchu dans la tête des gens.
Et Pétion, a peur qu'il se fasse lyncher. Ils descendent du carrosse,
il doit faire mouvement d'ailleurs
Pour le protéger.
Pour le protéger.
Mais on peut même penser que l'arrivée des députés qui sont venus à sa rencontre pour le chercher à Varennes l'a sauvé d'un lynchage. Il est tout à fait possible que peut-être que la famille royale aurait été lâchée.
D'autant plus qu'il y avait des hommes en armes pas très très loin, parce que d'après ce que on avait fait une petite émission sur la route de Varennes d'Alexandre Dumas.
Oui.
Dumas fait toutes les stations.
Oui.
Et il raconte que justement pas très très loin, quelques kilomètres à peine, il y avait des hommes en armes qui attendaient le roi pour le protéger.
Il y avait des troupes de Bouillé. Mais on connaît l'histoire. Les troupes de Bouillé en fait ont manqué leur jonction. Elles devaient retrouver le roi à un certain endroit. Elles ont loupé cet endroit, et il a été arrêté à Varennes, découvert, reconnu, l'histoire est très célèbre, et après, rapatrié. Et bien sûr, là, c'est vraiment le moment de la déchéance complète du roi.
Alors, elle a lieu vraiment au moment des Tuileries, c'est-à-dire... Il faut signaler aussi que dans cette... c'est pas pour rien qu'on parle de révolution. Tous les grands moments de la révolution sont des mouvements d'éruption populaire, et de grandes émeutes, n'est-ce pas? Les journées d'octobre dont on vient de parler, c'est le peuple de Paris, avec des femmes, d'ailleurs, qui commencent à faire une sorte de manif spontanée pour aller les chercher. Ensuite, le 10 août, le peuple de Paris se rue sur le palais des Tuileries, où le roi est plus ou moins coincé depuis sa tentative de fuite, et il va y avoir des morts, n'est-ce pas? Il y a un vrai combat, il y a une série de combats, et à la suite de cela, il est emprisonné. Et il va perdre même sa liberté de mouvement, il va être tout simplement enfermé, emprisonné avec sa famille, séparément d'ailleurs. Donc ça est très, très radical. L'autre élément important, n'est-ce pas, c'est là aussi un fait populaire, c'est la bataille de Valmy. C'est un verrou notoire sur le plan stratégique. Si Valmy avait été perdu, Paris était perdu, c'est de façon très claire. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Valmy? Eh bien, les armées émigrées, donc surtout austro-prussiennes majoritairement, avec d'autres nationalités quand même, elles vont tirer sur les Français, et, grande surprise, les Français ne s'en vont pas. C'est-à-dire que c'est une chose très, très impressionnante. D'ailleurs, il écrit, Brunswick, comment se fait-il? Les Goethe, dont on cite d'ailleurs le texte, puisqu'il était présent à la bataille de Valmy, Goethe, en effet, constate que, malgré la mitraille et malgré le canon, les Français ne bougent pas. Et qu'en plus, les généraux français ont l'intelligence. D'ailleurs, les généraux français appellent leurs soldats camarades. C'est encore un truc trop neuf, ça, du jamais vu. Et les généraux français ont l'intelligence de lancer des francs-tireurs et des soldats plus ou moins dépenaillés dans tous les sens, ce qui perturbe complètement la défense adverse, sans parler de la qualité des canons français. Et là, on a aussi un mouvement populaire. C'est-à-dire que la bataille de Valmy est, très curieusement, un phénomène d'enthousiasme qui va stupéfier le plénipotentiaire prussien, qui va se dire « Oh là là, on va s'en aller, on va se retirer, on va quand même pas laisser des plumes là-dedans. » Et en réalité, la propagande républicaine va s'emparer de cette reculade.
Pour déclarer la République.
Pour déclarer la République, le lendemain même. La République déclarée le lendemain de Valmy. Et vous voyez, c'est très important, les émeutes populaires vont à chaque fois être saisies par les révolutionnaires, donc Danton, Robespierre, Camille Desmoulins, Collot d'Herbois, Biot-Varennes, toute la bande là, ils vont à chaque événement populaire, se saisir de l'événement, sentant qu'ils ont les gens avec eux, pour faire un pas de plus. Toujours un pas plus loin, toujours un coup plus fort. Et bien sûr, ils ne le font que lorsque le peuple est avec eux. Et c'est bien sûr lorsque le peuple ne sera plus avec eux.
Qu'ils vont tomber
et disparaître. Non seulement parce qu'ils vont organiser une forme d'incompréhension dans cette querelle de personnes dont Michael a parlé tout à l'heure, qui n'est plus vraiment une querelle politique, où des gens placés tout seuls à la tête de l'État, coupés des réalités dans certains cas, même s'ils ont connu de très grands succès sur certains plans, économiques par exemple, et militaires, ces gens-là sont quand même coupés sur le plan démocratique des gens qui sont censés représenter. Et ils vont se ruer les uns contre les autres, et d'un seul coup, le pape devient spectateur, et quand le peuple est spectateur, il n'intervient plus. Il laisse faire, il laisse les gens se manger à la tête. Ouais. Et alors là, on assiste à la fin, bien sûr. C'est à la fois la fin de notre livre et la fin de Robespierre. Ouais, et c'est injuste. Hein.
Ouais. Alors, bon, j'explique aux auditeurs pourquoi la tête de veau tout à l'heure. La tête de veau. Parce que bon, on y arrive, comme tu m'as bien cramé, Philippe, en avançant à fond de train. Là.
Je vois l'heure qui passe.
Ouais, tu vois l'heure qui passe. On a encore 10 minutes. On peut dire encore des choses.
Mettons de l'eau alors sur ce feu.
Donc,
reprenons. Voilà.
Donc, le roi donc, a été exécuté hein, le 21 janvier 1793, ouais. Et un rite républicain s'est poursuivi après pendant très longtemps, et ça consistait à manger une tête de veau tous les 21 janvier de l'année. Ouais. Et donc, quand j'ai vu ce petit morceau des Dead Gregories qui s'appelait La tête de veau, je me suis dit que c'était une bonne façon d'actualiser la Révolution française, puisque eux ils parlent du roi des Belges et du président, et voilà, la Révolution française nous poursuit toujours. Voilà, ça ferait du bien peut-être de temps en temps de manger des têtes de veau. Donc,
les têtes de veau. Et la tête et le pied de cochon.
Voilà, donc on arrive à la. Donc je passe rapidement. Effectivement, donc la République est proclamée après Valmy. Ensuite, bon, il y a la création en mars 93 du tribunal révolutionnaire. Après, le comité de salut public. Donc là, on a l'impression que les choses s'accélèrent. Il y a Danton qui commence à se faire dépasser par Robespierre en termes d'influence politique au sein de ses instances. Et alors, un événement qui semble très important, et je pense que vous avez donné un texte pareil dont j'avais entendu parler, le texte que donne Brissot dans sa défense, dans cet événement extrêmement important qui est la chute des Girondins. Alors, Michael, en deux mots, pourquoi est-ce que c'est un événement important, cette chute des Girondins ?
C'est très important parce que les différentes factions, à l'intérieur de la Convention, donc à l'intérieur de l'Assemblée conventionnelle, les Républicains ont fini par se disputer entre eux. Et donc, après les victoires, il faut rappeler rapidement la chronologie, mais après les victoires de septembre 92, bon, après celle de Valmy et celle de Jemmapes, on enchaîne des victoires très rapidement, et puis après, on enchaîne des défaites. Et donc en mars 93, mars-avril 93, mai, tout ça ce sont de très très mauvais mois pour la France du point de vue militaire. Et en fait, et là il y a une très grosse dispute à l'intérieur de la Convention nationale. On est après la mort du roi, qui a été exécuté le 21 janvier, et on se retrouve entre républicains, mais l'échec militaire est là. Après les premières victoires, c'est l'échec, et on vient même à penser qu'on va, que la République va sombrer et disparaître. Et que se passe-t-il ? Comme il y a des divergences stratégiques importantes sur ce qu'il faut faire, il va y avoir deux grandes tendances, deux grandes factions qui vont se constituer à l'intérieur de l'Assemblée conventionnelle. D'un côté, ceux qu'on appelait les montagnards parce qu'ils étaient en haut des gradins, donc de la montagne, et puis de l'autre, des Girondins, notamment parce que l'essentiel de leurs députés venait de la Gironde. Et là, les montagnards vont prendre le dessus sur les Girondins, et ils vont faire quelque chose qui va aussi initier une pratique très particulière qui conduira finalement la République à sa perte. C'est que d'abord ils vont les exclure dans un premier temps, c'est le 31 mai, puis ils vont faire un certain nombre d'entre prisonniers, et après ils vont les exécuter dans le cadre de la politique du tribunal révolutionnaire. Et c'est vrai que nous on a voulu aussi raconter cette histoire, c'est-à-dire que notre livre raconte toutes les histoires de à peu près tous les points de vue, si on veut, il y a toutes les perspectives, et cette perspective de la destruction, l'autodestruction aussi du mouvement révolutionnaire, elle commence, c'est vrai, à partir de mai 93 et de l'exclusion des Girondins. Il faut savoir que à partir du moment où les montagnards prennent le pouvoir et où se constitue ce qu'on a appelé le grand comité de salut public en septembre 93, avec l'ensemble des lois qui ont été instituées à ce moment-là, la loi des suspects, bien sûr il y a aussi la loi du maximum et d'autres lois, eh bien, véritablement, là va se mettre en place un système dictatorial, il faut l'appeler comme ça, parce que nous, par exemple, contrairement au livre de qu'a fait Éric Hazan, on pense qu'il y a un gouvernement de la terreur qui a été théorisé par ces hommes, et on donne les textes.
Les textes sont là.
Et du coup, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'en effet,
de Saint-Just,
ils vont inverser avec leur système, leur nouveau gouvernement révolutionnaire, ils vont inverser la tendance de la défaite, des défaites, arriver jusqu'à des victoires très très importantes dans toute la fin de l'année 93, qui leur est essentiellement due, car ils vont jusqu'à, avec Saint-Just par exemple, se projeter sur le front, et d'une manière absolument décisive. Ils changent tous les généraux quand il faut les changer, Ils font même, parfois de manière très brutale, disparaître ceux qu'ils pensent être des généraux traîtres, et qui le sont parfois.
Oui, faut
le
dont dire. Certains sont vraiment passés à l'ennemi d'ailleurs.
Vraiment passés à l'ennemi, Cadeau du Mourier.
Ou dont les copains sont passés à l'ennemi.
Voilà. Et,
en masse.
Et donc, on se retrouve au début de l'année 94, et je crois que c'est ça que dont tu avais envie de parler, début de l'année 94, où finalement, après ces grandes victoires, il y a une demande de la part de certains révolutionnaires de desserrer les taux et de mettre la pédale douce, si on peut dire, sur ce gouvernement de la terreur. Et là, c'est là qu'on voit réapparaître de nouveau Desmoulins, qui demande dans un journal qui s'appelle Le Vieux Cordelier.
Un très beau texte que vous citez, voilà. Très ironique, très, très... très bon, où il se moque, enfin, il prend sur le ton de la satire,
oui,
finalement.
De l'humour féroce.
De l'humour féroce, justement.
Le gouvernement de la terreur.
Le gouvernement de la terreur.
Qui tourne en ridicule.
Qui tourne en ridicule et qui compare aux dictateurs romains.
Bien sûr. Ils avaient tous une très grande culture latine.
Oui, alors à ce moment, Robespierre propose de brûler le Vieux Cordelier. Et là, Desmoulins répond « brûler n'est pas répondre ». Et non, il est foutu. Avec cette phrase-là, il se grille.
Il se condamne.
Complètement. Et son ancien ami, témoin de mariage,
parrain de ses enfants,
va faire exécuter à la fois Desmoulins, mais aussi sa femme.
Dans la foulée.
C'est dans la foulée. On assiste à une véritable tuerie, un autogénocide de révolutionnaires. C'est complètement hallucinant. Et c'est lié pour une très large part à la rupture entre précisément les révolutionnaires et les gens qu'ils sont censés représenter. On est là devant éternellement, et ici on est Radio Libertaire, sur la question de la représentation de la volonté populaire. Quelle forme doit-elle prendre? Et là, elle a pris une forme erronée. Erronée qui n'est pas, par erronée, on veut dire tout simplement qu'une erreur a été commise. On ne va pas porter des jugements, un tel est infâme, l'autre était un brave homme, parce que Desmoulins lui-même est responsable pour une large part de l'exécution de ses copains girondins.
Et de Brissot.
Il a écrit un livre, un pamphlet de dénonciation, qui a été littéralement repris textuellement par les accusateurs, et qui a coûté la tête à ses propres copains. Lui-même sera assassiné ensuite par son propre ami. Enfin, voilà, on en est là. Et je pense que ça, c'est très important de voir que ces gens ont tenté une expérience unique qui n'a rien à voir, par exemple, avec la Révolution américaine. Hein. Et c'est tout à fait unique ce qui s'est passé en France. Les exigences étaient extrêmement élevées. Les idéaux, les utopies étaient extrêmement lointains, très difficiles à atteindre. Et comme ils étaient en effet en train, pour la première fois, de passer la charrue dans ce sillon, ils ont eu de graves difficultés. Et il faut le dire, ils ont été pour la plupart victimes, eux-mêmes, de cette affaire, puisqu'ils ont presque tous péri.
Oui, parce que Robespierre finit par y passer lui aussi, c'est qu'il finit par se retrouver complètement isolé, et qu'il fait peur à tout le monde. Et donc, quand bien on sûr. Fait peur à tout le monde, oui. On n'est pas loin de
ça. Cela dit, l'événement aura un retentissement absolument universel, et je veux dire, il n'y a rien à regretter de ce que la Révolution, en 5 ans, n'ait pas réussi à faire ce qu'elle aurait pu peut-être faire en 25. Mais le fait est que ces réformes révolutionnaires dont parle Saint-Just, puisque pour lui, la Révolution, c'est une série de réformes radicales, qu'on impose, quand les gens ne sont pas d'accord, quand on est certain d'être dans le vrai, eh bien, ces réformes-là, ces réformes révolutionnaires, eh bien, on attend, n'est-ce pas, qu'à nouveau, dans ce pays, des choses importantes soient faites, parce que c'est le moment. Hein, il y a un peu de fatigue, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'égard de ce qui se passe, de ce qui se décide ou ce qui ne se décide pas. Et s'il y a encore des gens ici qui opposent réforme et révolution dans ce pays, qui pensent à cette fameuse réforme révolutionnaire de Saint-Just, ce serait peut-être le moment de revenir à des réformes radicales.
Ce sera le mot de la fin. Donc aujourd'hui, nous vous parlions au cœur de la Révolution française, donc des textes choisis et présentés par Philippe et Michael Parer aux éditions de L'Épervier, vous le trouvez à la FNAC. Voilà.
Donc, chez Publico.
Ou chez Publico aussi, bien sûr.
Un peu de solidarité.
Dans plein de bonnes librairies. Oh là là. Joseph est où? Voilà, donc je pense que la guillotine m'attend.
Oui, la guillotine est à la sortie.
Qui jouera le rôle de Fouquet Tinville?
Voilà. Et donc, on vous retrouve dans 2 semaines pour une petite émission musicale, parce qu'on sera sans doute que 2, José et moi. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
On avait promis, monsieur Véton avait promis, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, dévalassons, dévalassons. Dansons la carmagnole, dévalassons, dévalassons. Antoinette avait résolu, de nous faire tomber sur le cul. mais son coup a manqué, elle a le nez cassé. Les Suisses avaient promis,
les Suisses avaient promis,
qu'ils feraient feu sur nos amis,
qu'ils feraient feu sur nos amis.
Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé,
dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Le patriote a pour ami,
le patriote.
Tous les bonnes gens du pays,
tous les bonnes gens du pays,
mais ils se souviendront tous au son du canon.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Amis, restons toujours unis,
amis, restons toujours unis,
ne craignons pas nos ennemis,
ne craignons pas.
S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter.